Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Good morning business. Culture geek.
Anthony, c'est ce qui s'appelle une boulette, une grosse boulette. Meta devait dévoiler le mois prochain ses nouveaux modèles de casques de réalité virtuelle, sauf qu'un prototype a été oublié dans une chambre d'hôtel.
Ouais, c'est effectivement oups, comme on dit. Hein, voilà, oui. La méga boulette, cet appareil qui s'appelle le Meta Quest Pro et qui devait être présenté en grande pompe. Il y avait même une date.
Le 11 octobre.
Exactement. Bah oui, je sais que vous suivez ça avec attention. Oui. Donc, keynote de Facebook qui doit présenter ce casque est stratégique parce que c'est la porte d'entrée ou l'une des portes d'entrée vers le métavers dont dépend une partie de l'avenir financier de Facebook. Sauf que, eh bien, un prototype de cet appareil a été oublié dans une chambre d'hôtel, retrouvé par un salarié de cet hôtel qui s'est empressé évidemment de prendre des photos, de le filmer et de le publier sur les réseaux sociaux. Alors, on voit à quoi ressemble ce casque, hein, qui est un petit peu plus compact, un peu plus élégant que les modèles actuels. Et on sait que c'est un des gros enjeux pour ces casques de réalité virtuelle, d'avoir des modèles qui seraient miniaturisés, parce qu'on n'a pas forcément envie de les porter tout au long de la journée.
Ça fait un peu des yeux de mouche.
Ça fait un peu des yeux de mouche, ouais, vous avez raison. Ça ressemble un petit peu à l'HoloLens 2 de Microsoft, pour ceux qui connaissent. Mais enfin, voilà, on a en tout cas le form factor, on a les manettes qui sont un petit peu plus petites. On a même le packaging qui est très bien réalisé aussi, avec les logos, le petit autocollant, prototype pour ingénieur, ne surtout pas revendre. Alors, il y a certaines personnes...
Et ne pas oublier.
Ne pas oublier à l'hôtel, parce que c'est quand même un petit peu dommage. Non, mais certains se demandent si ces images sont authentiques. Enfin, moi, de mon expérience personnelle, à 90%, soit c'est le meilleur fake du monde, soit ce sont des vraies images, parce qu'effectivement, on a tout, on a le packaging, on a l'appareil qui ressemble à peu près à ce qu'on en attend. Et voilà, c'est un peu dommage qu'il ait été oublié dans cette chambre d'hôtel.
Ouais, enfin, oublié, j'ai un petit doute, parce que les produits oubliés dans la Silicon Valley, ils sont légion et parfois ça permet d'orchestrer une petite fuite.
Alors, c'est vrai qu'il y a tout un folklore en fait autour des appareils oubliés dans la tech. L'exemple le plus parlant, c'était l'iPhone 4.
Ah oui,
il y a
dans un bar,
ans, en dans un bar, exactement, oublié par un ingénieur qui dira plus tard, j'avais un peu abusé de la bière allemande ce soir-là. Je pense que Steve Jobs a dû apprécier. Le gars a pas dû faire long feu, je pense. Mais enfin, de fait, l'iPhone avait été récupéré par un passant, avait été racheté par un site de presse technologique, Gizmodo, $5,000. Steve Jobs l'avait demandé en personne. Sans succès, et donc bah forcément ce site internet avait pu publier des photos, des vidéos avant la sortie, ce qui était évidemment un sacrilège absolu. Plus récemment, on a eu un prototype de montre Pixel Pro qui a été oublié dans un restaurant. On a eu aussi un internaute qui a commandé un Pixel 6 Pro, donc un smartphone de Google sur internet. Il le reçoit, il commence à l'utiliser, puis il se rend compte que c'est pas le téléphone qu'il a demandé. En fait, il avait un Pixel 7 Pro, un prototype qui n'a même pas encore été annoncé. Google a dû le désactiver à distance 3 mois plus tard. Donc oui, les exemples sont effectivement légion.
Mais donc, quoi, c'est un petit coup de marketing, un coup de buzz?
Non, mais je sais que Christophe, c'est voilà, il y a ce fantasme, effectivement, de la fuite organisée, et on sait que ça a dû arriver ponctuellement par le passé. Souvent, c'est quelques jours avant une annonce officielle, vous allez avoir des images qui fuitent, comme par hasard, sur le site de l'entreprise. On ne sait pas trop pourquoi, si quelqu'un, c'est un stagiaire qui a appuyé sur un bouton. En général, ça a été fait exprès.
Ils ont beau dos, les stagiaires.
Oui, non, c'est vrai, vous avez raison. Mais globalement, c'est quand même assez rare. Ces grands groupes technologiques qui dépensent des milliards de dollars en R&D, ils n'ont pas tellement intérêt en réalité à se faire damer le pion quelques semaines avant une présentation officielle pour être copié ensuite par des sous-traitants chinois éventuellement. Et on sait d'ailleurs que tous les grands groupes technologiques maintenant ont des divisions anti-fuite. C'est-à-dire que par exemple chez Apple, ils ont maintenant des gens du FBI, de la NSA qui travaillent pour
les
éviter...
Les enquêtes sur les salariés.
Oui, évidemment, pour éviter les fuites volontaires. Parce que le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un cycle de création du produit qui va de l'ingénieur jusqu'aux sous-traitants qui sont morcelés un petit peu partout dans le monde, qui fait que les fuites sont tout à fait probables. Et encore, on n'est pas à l'époque de Steve Jobs où alors il y avait toutes les rumeurs comme quoi Steve Jobs faisait travailler différentes équipes sur différents faux produits pour voir d'où les fuites venaient l'intérieur de l'entreprise. Donc là, on arrivait à un niveau...
Transition toute prévue. Nicolas Sekaldi, vous avez travaillé chez Apple.
Oui.
C'est vrai ce que raconte Anthony Morel ?
C'est vrai,
ouais. Ah oui ?
C'est vrai, ça allait très très loin. Déjà à l'époque.
Le Spy Master, certains le surnommaient à l'époque. Le maître espion.
Voilà. C'était un maître de la paranoïa en matière de produits.
Ouais, c'est clair. Bon, c'est plus difficile de faire fuiter une ferme verticale, hein, pour faire du buzz sur votre produit.
On n'a pas le même enjeu, c'est pas un enjeu grand public, donc en fait, on fait de la technologie, on est en B2B. Moi, je fais même visiter ma ferme à mes concurrents.
Ah oui.
Ouais. Et quand, pour avoir leur réaction en fait de façon à ce qu'ils, bon, comme on est les seuls à le faire comme ça, ils nous regardent avec un petit air étonné en se disant mais les mecs ils ont mis de la terre pour faire de l'agriculture verticale, ils sont barrés. Et finalement c'est intéressant de les faire réagir.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup Nicolas Cecaldi.
Et si vous aimez la tech et l'innovation, je vous propose de me retrouver dans Le Meilleur Reste à Venir. C'est le podcast qui veut vous donner envie de vivre en 2050. À retrouver sur le site de BFM Business et sur toutes les plateformes.